Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, à Noël, on ne sait jamais quoi offrir à nos ados. Mais cette année, on a trouvé le cadeau idéal. 2 heures dans leur forfait. Et vu le prix, c'est aussi un cadeau pour nous. Alors, c'est qui les parents trop géniaux?
Avec le Noël spectaculaire de SFR, profitez du forfait starter 2 heures à 0 euros par mois pour les clients box pendant un an, puis 5 euros par mois. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à condition, valable jusqu'au 8 janvier 2018 pour toute nouvelle souscription. Prix multipack sans mobile avec engagement 12 mois.
Bonsoir, des Rafales, des Airbus, un métro, des blindés entre autres, hein, Emmanuel Macron en grand ce matin pour plus de 11 milliards d'euros de contrats au Qatar. Oui, le président de la République très présent dans la région depuis un mois, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite. Tiens, quel positionnement doit avoir la France dans cette région. Oui, le Golfe, c'est un marché clé, les besoins ils sont extrêmement nombreux. Chacun des pays rivalisant entre eux pour être le plus beau, le plus vert, le plus moderne. Mais c'est une zone tourmentée avec le conflit au Yémen, la guerre contre le terrorisme, cette révolution de palais aussi, rien n'est simple. Alors, le Golfe peut-il être vraiment l'Eldorado de la France? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, on va en parler avec nos experts, nos spécialistes, les acteurs également d'un des fabuleux contrats de ce matin. Benjamin Lalanne est avec nous, directeur général du cabinet de recrutement Naos International, très implanté dans les pays de la région. Je vous disais donc, eh bien, l'une des lauréates hein, de la matinée, Marie-Ange Debon, la DGA de Suez, chargée de la division internationale. Pascal Deveau, économiste chez BNP Paribas, spécialisé dans le proche, dans le Moyen-Orient. Marc Goutalier, spécialiste de la géostratégie au Moyen-Orient, consultant à l'Observatoire des pays arabes. Et puis Hugo Azrad, vice-président dans le cabinet de conseil AT Carnet. On parlera notamment spécialement des besoins en aviation, les compagnies, les hubs hein, qui se créent là-bas sur place. Alors, je vous le disais, 11 milliards, un petit peu plus, hein, d'euros de contrat. Donc ce matin, un contrat de dépollution des sols avec Suez, on va en parler largement, bien sûr. L'exploitation du métro de Doha et du tramway de la ville nouvelle de Lusail, qu'on confie à un consortium SNCF-RATP. Une lettre d'intention pour presque 500 véhicules blindés Nexter. Et puis des avions civils, 50 Airbus A321. Et puis du militaire, 12 avions de combat Rafale après les 24 premiers donc avaient signé le Qatar il y a 2 ans, plus une option sur 36 autres. Vous voyez, donc, riche programme. Tiens, justement, avant de donner la parole à tous nos invités ici en plateau, on a pu joindre cet après-midi, juste avant son départ du Qatar, hein, le PDG de Dassault Aviation, Éric Trappier, très fier, évidemment, de ce nouveau succès. On l'écoute et puis on revient juste après.
C'est 12 rafales de plus et c'est un honneur qui nous est fait une nouvelle fois par le Qatar, qui poursuit sa relation de partenariat avec la France, qui poursuit sa relation de partenariat avec Dassault. Et ça s'inscrit en plus du contrat que nous avions signé il y a 2 ans sur les 24 avions. Donc c'est 12 rafales de plus.
Voilà, avec une option supplémentaire pour 36 aussi qui est engagée, 36 autres.
Alors il y a aussi une intention, des options qui pourraient être exercées plus tard pour 36 autres avions.
C'est une vieille histoire quand même entre Dassault Aviation et le Qatar depuis le début des années 80.
C'est une longue histoire qui a commencé avec des Mirage F1, puis de l'Alpha Jet. Après est arrivé le Mirage 2000 et le Rafale qui a été signé, qui sera livré dans les mois, années qui viennent. Donc c'est une très longue histoire entre le Qatar et Dassault.
Et pour vous particulièrement, vous avez des relations particulières avec l'émir du Qatar. Il y a vraiment une relation personnelle quasiment.
C'est une relation de confiance qu'on a instaurée avec l'émir, avec le ministre de la Défense, avec surtout des officiers de l'armée de l'air, des forces armées qatariennes. On a la chance chez Dassault d'avoir des têtes qui restent longtemps. Donc on peut développer ces relations de confiance, non seulement entre la société et le pays, mais aussi des relations de confiance individuelles.
Le Golf, en général, et pas uniquement le Qatar, c'est un gros acheteur de matériel militaire. Hein. On dit que c'est le tiers des importations mondiales d'armement. Il faut être évidemment présent dans cette région.
Ce sont des régions, de manière historique, nous sommes depuis les années 70. C'est grâce à la politique française qui a été renouvelée, cette politique qui est appréciée ici dans les pays du Golfe, cette relation de confiance qui est appréciée avec les autorités françaises, que nous avons pu tisser nos relations nous-mêmes et être capables de livrer ces avions tout au fil des décennies, et je l'espère dans les décennies qui viennent, sur la base de la compétence. Nous livrons des avions performants et nous avons des engagements que nous tenons.
Dernier point, puisqu'on parlait des Rafales, les autres contrats à venir maintenant, l'Inde, où en est-on? L'Égypte ensuite?
Bah écoutez, laissez-moi savourer d'abord cette réussite aujourd'hui au Qatar, mais évidemment, dès demain matin, on va poursuivre nos efforts en Inde, où, comme vous le savez, nous ne souhaitons pas nous arrêter aux 36 premiers avions. Nous souhaitons poursuivre ce partenariat que nous avons bâti avec l'Inde, et puis d'autres pays, effectivement, qui devraient être intéressés par le Rafale, qui est quand même vraiment un produit de haute valeur ajoutée, et qui s'inscrit parfaitement bien aussi dans les valeurs qui sont véhiculées par le pays et par la volonté de réussir dans l'aéronautique.
Oui, l'option de 12 en Égypte, quand sera-t-elle levée?
On verra.
Eh ben voilà, on verra. C'est Eric Trappier, donc PDG de Dassault Aviation, que j'ai joint cet après-midi, donc avant qu'il quitte le Qatar, justement, en direction l'Inde, où il va essayer peut-être d'en vendre de nouveau. Marc Goutalier, qu'est-ce que ça traduit, tous ces contrats signés par le Qatar? On va quand même le rappeler, vous étiez venu nous en parler ici sur le plateau des décodeurs de l'écho, depuis le mois de juin. Le pays est sous embargo, décrété par l'Arabie Saoudite, par les Émirats Arabes Unis, qui reprochent au Qatar, quelque part, eh bien, un soutien au terrorisme, et le rapprochement avec l'Iran. Le Qatar n'est pas affaibli depuis 6 mois?
Bien sûr que si. D'abord, il faut rappeler que la France a des relations stratégiques et commerciales anciennes avec le Qatar. Il est donc normal qu'il y ait ce type de nouvelles. Maintenant, comme vous dites, le contexte fait que on doit s'interroger sur l'ampleur des signatures ou des promesses de signatures de contrats. Il s'agit évidemment d'un engagement sur l'avenir de la France, dans un pays qui aujourd'hui est en difficulté, mais qui représente des opportunités d'investissement importantes via évidemment la Coupe du Monde de 2022 en premier lieu.
Tout juste, et ce qui justifie notamment l'installation de ce tramway dans cette ville nouvelle de Lusail. Hein. On verra, on parlera de Smart City tout à l'heure avec Marie-Ange Debon de Suez. Hein. C'est l'une des villes côtières qui accueillera donc le Mondial. Benjamin Lalanne de Naos, on pensait que le climat des affaires pourrait en pâtir depuis la crise avec les grands voisins, justement, grands ou moyens voisins. C'est plus long quand même, c'est plus compliqué quand même de faire du business là-bas. Vous y êtes quasiment toutes les semaines.
Quasiment. Ouais. C'est plus long et compliqué, oui et non. Je pense qu'effectivement, la mise sous blocus de certains pays sur le Qatar joue beaucoup, effectivement. Plus largement sur la région, ce qu'on constate quand même, c'est que la région reste un Eldorado, alors pas forcément très nouveau, mais c'est un Eldorado qui se confirme pour beaucoup d'entreprises internationales. Dans beaucoup des secteurs d'activité qu'on peut imaginer, notamment les secteurs où les entreprises françaises, grands groupes, et PME sont très présents. Ce qu'on voit aujourd'hui, et les annonces sur les contrats, c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a énormément d'entreprises ETI et PME qui sont actives et dynamiques. C'est pas beaucoup plus compliqué aujourd'hui de faire des affaires au Moyen-Orient ou dans le Golfe. Nous, ce qu'on constate quand même, c'est que obtenir les contrats, c'est pas forcément beaucoup plus compliqué. Par contre, gérer les entreprises, et notamment via notre prisme de cabinet de chasse de tête, trouver les compétences, là, pour le coup, oui, les choses deviennent encore plus compliqué qu'avant.
On manque de talents, c'est ça, là-bas?
On manque de capacité à attirer les talents dans les bons endroits. Ouais. Concrètement, les postes sont parfois ouverts dans des géographies peu attractives. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'au mois de juin, les deux pays les plus attractifs du Golfe, c'était les Émirats, avec Abu Dhabi et Dubaï principalement, et le Qatar. La mise sous tutelle ou l'embargo sur le Qatar rend les choses un peu plus compliquées et fait que, concrètement, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont à l'extérieur du pays qui négocier très concrètement et très récemment des postes importants qui refusent d'y aller finalement pour ces questions-là.
Oui, tout à fait, notamment des questions d'intendance. Notamment, il n'y a plus de liaison, par exemple, entre Dubaï et Doha. Il y avait quoi, 30 liaisons, quoi, ouais. Quasi quotidiennes. Hein,
Il fallait une heure pour faire Dubaï et Doha en avion. Maintenant, il faut 6 heures en passant par d'autres pays.
Ouais, en effet, Pascal Devaux, le Qatar, en quête de soutien extérieur, face au boycott peut-être, ouais, cherche les gros contrats d'armement avec les pays occidentaux, là, le Rafale, on vient d'entendre Eric Trappier, contrat avec Nexter aussi pour presque 500 blindés.
Oui, alors j'ai pas trop d'avis sur les contrats d'armement à vous donner, mais c'est sûr que le Qatar cherche, c'est une politique qu'il a menée depuis longtemps, à se protéger vis-à-vis d'un environnement qui peut lui être hostile. Je reviendrai peut-être sur les conséquences de l'embargo. C'est vrai qu'à court terme, on a une bonne réaction, une bonne résistance de l'économie qatari. Il faut quand même voir qu'il y a 30 milliards de dollars qui sont sortis du système bancaire en un ou deux mois, qui ont été épongés grâce au fonds souverain qatari qui était à ce moment-là, qui est maintenant équivalent à 300 milliards de dollars, donc qui reste important. Ces 300 milliards de dollars, il y a quand même quelques interrogations sur la liquidité de ce fonds. Il y a peut-être une moitié du fonds qui n'est pas tout à fait liquide. Donc ça, c'est quand même un élément. Un deuxième élément à prendre en compte, c'est que le développement du Qatar depuis des années est essentiellement bâti sur la dette extérieure. Et notamment, alors ils se sont endettés extrêmement pour développer leur potentiel gazier, donc fin années 90. Cette dette a été remboursée. Maintenant, ils se sont redéveloppés dans les années 2010 pour se diversifier. Et cet embargo est vraiment quelque chose qui peut les impacter très fortement et d'une façon très négative. Sur les 5 dernières années, la dette extérieure a doublé. On est maintenant à 160% du PIB. Donc, ce qui est très important. Les relations bancaires fragile, avec la région sont coupées. Il y a un peu de flux bancaire qui vient d'Asie, mais qu'on a du mal à estimer. Les banques occidentales ont peut-être une politique plus prudente qu'auparavant sur le fait de continuer à prêter.
Donc, ça veut dire quoi, par exemple, les 11 milliards d'euros de contrats signés ce matin par Emmanuel Macron, est-ce qu'ils seront honoré, ce qu'il
dit
jusqu'au bout. On a vu quand même des déceptions dans la région. Manuel Valls, il y a quelques mois, l'an dernier, je pense, quand il était pro, un peu plus, puisqu'il est plus premier ministre depuis un an maintenant. Mais quand il avait signé, annoncé des contrats avec l'Arabie Saoudite, bon, on n'a pas vu que tout était au rendez-vous.
Alors sur le Qatar, il y a quand même, il y a deux actifs très importants et qui permettent au Qatar de payer, de rembourser ses prêts. Il y a ce fonds souverain, donc 300 milliards. Et il y a les exportations de gaz, de gaz de pétrole liquéfié. Au cours actuel, c'est à peu près, alors si on prend gaz et pétrole, c'est 60 milliards de dollars par an. Et par ailleurs, on a un budget qui est un petit peu déficitaire, mais pas trop. Donc le Qatar continue à avoir les moyens de rembourser ses dettes en devises.
Bon, est-ce que le Golfe, c'est le nouvel Eldorado de la France, je le disais, région stratégique, pour le pays, il y a 130 sociétés françaises présentes au Qatar. Et puis là, on va élargir évidemment l'Arabie Saoudite, les Émirats. Le potentiel dans tous ces pays, il est très grand, soif de techno, envie de protéger l'environnement, besoin, désir d'être moderne, d'apparaître moderne. Marie-Ange Debon, la DGA de Suez.
Oui, le Qatar a depuis plusieurs années lancé une politique d'investissement structurant vert. Donc, nous avons construit la plus grande usine de Doha en matière de traitement des eaux usées. Et puis là, nous venons de gagner une nouvelle référence dans un domaine un peu différent qui est les traitements des sols pollués aux hydrocarbures. Donc, c'est un pays qui est très attentif à la protection de la ressource.
Ah oui, alors, ça consiste en quoi cette méthode de décontamination donc, vous allez traiter des lagons là, au Qatar?
Ça fait partie de la politique du gouvernement de rendre le pays le plus attrayant possible pour ses citoyens et pour évidemment les travailleurs qui viennent, les touristes, d'une part d'avoir de l'eau de qualité et d'autre part de réduire tous les problèmes de pollution qui existent. Donc on va traiter des terres polluées que nous allons chauffer pour en faire partir les polluants.
Et vous êtes un expert chez Suez de la dépollution des sols. Vous voulez vous positionner comme un acteur majeur dans cette région du Moyen-Orient où finalement on n'a pas fait forcément beaucoup d'efforts à une époque dans ces pays qui produisent du gaz et du pétrole.
Oui, alors c'est la première référence dans le domaine du traitement du déchet que Suez obtient. Le pays avait déjà été très très attentif sur la protection de l'eau et de la ressource. Donc la plupart des usines sont des usines de traitement d'eau qui recyclent l'eau. Et aujourd'hui, 90% ou 95% de l'eau usée est recyclée pour l'irrigation, pour les espaces verts, pour remettre de l'eau dans la nappe phréatique. Et nous, avec cette usine de Doha West, on assure une très grosse partie de l'eau de Doha. Et là, évidemment, quelque chose un peu nouveau qui montre cette prise de conscience importante du Qatar de la nécessité d'avoir une vraie politique environnementale.
Ouais, Benjamin Lalanne, dans ces pays en général, Qatar, Émirats, Arabie Saoudite, on parlera aussi, parce qu'il y a une ouverture quand même. Voilà, ça a l'air de se moderniser. Il y a une volonté dans ces pays de produire vert, justement, d'être le plus vertueux possible.
Je pense qu'il y a une volonté d'être assez à la pointe des technologies de manière générale. Ouais. Et effectivement, ça trouve aussi un écho sur les sujets environnementaux. Et là, pour le coup, c'est vrai que pour venir sur le sujet du soir, oui, effectivement, on a en France la chance d'avoir des groupes leaders mondiaux dans le domaine, et Suez évidemment est peut-être le premier. Il y a aussi un certain nombre de tissus d'entreprises qui sont expertes sur des sujets extrêmement pointus, et c'est vrai que là, pour le coup, ça fait partie des cartes à jouer pour les entreprises françaises dans la région.
Oui, alors les entreprises françaises également, enfin européennes, hein, j'ai parlé donc ce matin de ce contrat de 50 Airbus A321. Il y a trois semaines, c'est Boeing qui avait vendu à Emirates 40 787. 225 737 avaient été acquises par la low-cost Fly Dubai. On voit également, voilà, il y a un achat, une frénésie d'acheter des appareils. Et puis on voit également, Hugo Azra de chez AT Carnet, une course entre aéroports pour attirer les compagnies et créer de gigantesques hubs. Doha au Qatar, Abu Dhabi bien sûr, Dubaï un petit peu plus au nord, et puis face à Istanbul, déjà bien existant, face peut-être à terme à Téhéran aussi qui veut se moderniser grâce à l'aéroport de Paris.
Alors on a eu ces dernières années, ces 10-15 dernières années, une vraie création de hubs dans cette région qui se sont bâtis à un endroit où c'était pas naturel d'avoir un hub, parce que jusqu'à présent les hubs dans l'aérien étaient positionnés sur des zones qui étaient soit attractives d'un point de vue touristique, soit qui bénéficiaient d'une base de population suffisamment forte qui avait besoin de se déplacer. Donc là on a créé ex nihilo dans le désert des hubs sur un élément assez fort qui était la compétitivité économique, bénéficiant finalement d'une zone souvent franche qui permettait d'avoir un personnel qui ne subissait pas de charges sociales et peu de taxes, et en plus, comme on avait 50% des vols qui touchaient cette base-là, on avait un environnement économique pour l'ensemble des services autour de l'avion qui était intéressant.
Alors, quand on parle d'une chance pour la France, pour les Européens, en effet, on vend des appareils, hein. Et quelque part, ces hubs, c'est pas une concurrence
C'est une concurrence, c'est-à-dire que le trafic...
À Francfort, à Paris, voilà. À Londres, voilà, par exemple.
Déjà, dès le fait que ce n'était pas jusqu'à présent une destination en tant que telle. C'était, bien sûr, il y a des gens qui y vont, mais c'était pas une destination massive de trafic. Donc, à partir de là, elle s'est construite en faisant un intermédiaire entre l'Europe, l'Asie du Sud-Est, le Pacifique, dans une bonne circuité, ce qu'on appelle la circuité dans l'aérien, c'est-à-dire un lien assez simple où on ne rallonge pas la durée de vol, en particulier pour aller à Sindé, on était obligé de faire un stop. Donc c'était
quelque part, ouais.
C'est sûr. Aussi bien de faire un stop à Dubaï que d'en faire un à Singapour ou à Hong Kong. On est à peu près au milieu dans la destination.
Oui, enfin,
voilà, c'est un tiers, voilà, on va dire. On est au tiers, mais donc là, on est venu finalement prendre du potentiel aussi bien aux compagnies européennes qu'aux compagnies asiatiques dans l'échange de ces grands flux. La deuxième étape qui a commencé il y a quelques années et qui se poursuit, qui a commencé à Dubaï, qui s'est poursuivi à Abu Dhabi, le Louvre en est un des exemples, et qui va se poursuivre à Doha avec la Coupe du Monde, c'est de faire de ces destinations non plus un élément de compétitivité économique, mais une destination touristique attractive. C'est-à-dire de faire en sorte que les gens se disent « Tiens, je vais passer par là et que je vais y rester un jour, deux jours pour profiter de la région ». Et non plus juste passer par là parce que c'est moins cher.
Et on voit, Marc Goutalier, quand même, comment tous ces pays, eh bien, rivalisent l'initiative entre eux, justement, celui qui attirera le plus, au travers, en effet, d'outils comme le soft power, l'art, notamment, le Louvre à Abu Dhabi, le Guggenheim également, des musées prestigieux aussi au Qatar, avec des acheteurs qui achètent beaucoup de tableaux, et puis ces aéroports, ces plateformes géantes.
Oui, mais on s'aperçoit justement que cette rivalité commence à devenir dangereuse parce que elle est censée être productive, mais quand on voit le blocus qui a été imposé au Qatar par ses voisins, il y a de quoi refroidir quand même les investisseurs. Est-ce que tout cela est bien sérieux finalement? Et on parlait tout à l'heure des investisseurs s'efforçait d'attirer le Qatar pour briser son isolement, on va dire, dans le blocus qui lui est imposé. Je voudrais juste rappeler que depuis juin, le Qatar a fait assaut d'amabilité, donc auprès des pays occidentaux notamment, et que, par exemple, ils ont acheté, nous, ils nous achètent encore des Rafales, ils ont acheté des navires militaires italiens, ils ont acheté aussi des avions britanniques, ils ont aussi acheté des avions aux Américains. Tout cela n'est pas innocent.
C'est la question que je posais tout à l'heure à Pascal Deveau. Voilà, dans ce contexte de tension, ils se protègent, ils achètent de l'armement.
Il se protège, mais après, la question est-ce que des navires et des avions sont ce qu'il faut pour garantir la sécurité de l'Émirat dans le contexte géopolitique actuel?
Pascal Deveau, BNP Paribas.
J'ajoute une petite remarque, c'est que ça reste une base militaire américaine très importante.
La plus grosse à l'extérieur.
C'est quand même essentiellement...
Emmanuel Macron y était d'ailleurs ce matin. C'est de là où partent toutes les forces qui combattent donc les terroristes de Daesh ou ce qu'il en reste. Enfin, il en reste bien sûr. Marc Boutallier.
Ça, c'est une assurance vie, évidemment, qu'ont souscrit les Qataris auprès de Washington. Et il y a une nouvelle assurance vie qui vient de démarrer. Cette fois, elle est plus locale. C'est auprès des Turcs, puisque les Turcs, maintenant, ont une base militaire.
C'est plus petit.
Eux aussi, c'est plus petit. C'est voilà, à la mesure de leurs moyens.
Juste un mot, où est-ce qu'on en est de cette crise? Parce que l'émir du Qatar disait tout à l'heure au président de la République vouloir sortir de cette crise avec dignité. Bon. Ça veut dire quoi?
Tout le monde veut sortir avec dignité, mais on est toujours embourbé.
Bon, bah voilà, en effet. Un autre conflit, mais dont on parlera tout à l'heure, le Yémen. Juste, je reviens avec vous, Marie-Ange Debon, directrice générale adjointe de Suez. Donc, cette quête de modernité, comme nous disait Benjamin Lalanne, donc le Golfe, gros consommateur de technologie. C'est vrai, quand on est dans l'hôtellerie, dans le traitement de l'eau, les utilities en général, c'est un marché sur lequel il faut se positionner. On voit par exemple cet énorme projet dont on avait parlé donc en Arabie Saoudite, ce projet de réforme de Mohamed bin Salman, le prince héritier, de créer une immense ville nouvelle au bord de la mer Rouge. Nécessairement, un géant comme Suez se positionne, j'imagine.
Oui, c'est un de nos savoir-faire de travailler sur les villes intelligentes, les villes agréables pour leurs citoyens. Donc travailler sur les problématiques évidemment de protection de la ressource, de congestion et de conception de la ville de manière intelligente. Et le Qatar a lancé plusieurs initiatives dans ce domaine à base de technologies, comme vous l'évoquiez.
Je parlais de la ville de Lusail qui va accueillir la Coupe du Monde, une ville pharaonique, voilà.
C'est une très belle ville.
45 milliards de dollars sur la table.
Et beaucoup de technologies, donc des capteurs, du numérique, essayer de gérer de manière totalement à distance et numériser les réseaux, que ce soit l'eau chaude, l'eau froide, la climatisation, réfléchir aussi à la collecte pneumatique du déchet pour ne plus avoir de camions pour le collecter. Toutes ces petites initiatives qui rendent la ville beaucoup plus agréable pour ses citoyens et pour ceux qui viennent travailler aussi.
Et on a l'impression qu'ils veulent les meilleurs experts, ceux qui ont le meilleur savoir-faire. Les Français ont une compétence. Alors il y a vous, je vais citer très sportivement, vous me pardonnerez, Veolia bien sûr, sort en Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite qui veut privatiser massivement le secteur de l'eau dans les 5 prochaines années justement. Vous allez vous positionner là aussi?
On se positionne déjà. L'Arabie Saoudite a aussi des grands projets en matière de dessalement. L'Arabie Saoudite a lancé aussi une grande réforme en matière de tarification de l'eau, de réflexion sur sa politique de l'eau. Et bien sûr, Suez sera présent dans les appels d'offres.
Ouais, mais on voit les boîtes françaises que vous fréquentez, donc Benjamin Lalanne, donc là-bas dans cette région, qui vont s'intégrer, par exemple, dans cette vision 2030 de Mohamed bin Salman, donc au travers peut-être de partenariats public-privé. Il a envie de ça, justement, le futur roi.
Il en a envie, je pense qu'il a raison, parce qu'il en a besoin, et que de manière générale, les pays de la région en ont besoin. C'est vrai que c'est un vrai sujet, puisque l'environnement réglementaire et la stabilité de l'environnement réglementaire et financier est indispensable pour les groupes internationaux, pour être quelque part rassurés sur la pérennité de leurs investissements, notamment sur des contrats de type partenariat public-privé et des contrats long terme. Vous avez cité à juste titre aujourd'hui le fait que l'alliance RATP et Keolis a remporté un contrat long terme sur l'exploitation du métro de Doha. Il y a un peu la même chose, le même type de projet en ce moment, Ariad, qui devrait être normalement attribué. Alors c'était prévu pour fin 2017, mais bon après, il peut y avoir quelques mois de décalage évidemment. où là aussi il y a deux consortiums, notamment français, qui sont plutôt bien positionnés. Donc oui, c'est indispensable, et de toute façon il n'y a pas d'autres moyens. Donc aujourd'hui vous citiez l'Arabie Saoudite et vous avez cité un groupe comme SOR qui a depuis assez longtemps dans le pays pas mal d'activités, de contrats, avec une approche plutôt intelligente, justement, qui a consisté à faire un partenariat qui fonctionne, et donc plutôt sur le long terme, avec un acteur local assez important, parce que l'important pour ces pays-là, c'est non seulement d'avoir des compétences, mais c'est aussi de pouvoir développer les compétences de sa population.
Des locaux, bien sûr.
Exactement,
bien sûr.
De manière à, un jour, pouvoir évidemment être complètement autonome.
D'où la nécessité de savoir les attirer, de les former.
Exactement.
Justement, c'est ce qui manque, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Bon, on verra si tout à l'heure, dans un instant, si en effet le Golfe est le nouvel Eldorado de la France, parce que la région, elle est quand même tourmentée. Et puis, il n'y a pas que les Français, hein. Les Américains qui reviennent en force, les Chinois, peut-être les Russes également. Rien n'est simple, je vous le disais. À tout de suite.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, l'actu de ce jeudi, ce sont les 11 milliards d'euros de contrats engrangés par Emmanuel Macron, donc ce matin au Qatar, tous azimuts, hein, le métro, la dépollution des sols avec Suez, les Rafales, les Airbus également. Alors, on voit au-delà du Qatar, est-ce que finalement cette région du Golfe, eh bien, est le nouvel Eldorado? Bon, région extrêmement tourmentée, bien sûr, on va y revenir dans le détail. Simplement aussi, Marc Goutalier, avec nous, spécialiste de la géostratégie du Moyen-Orient à l'Observatoire des Pays Arabes, hein, auteur de « Quand le printemps brouille les cartes », la grosse info de ce mercredi, hier donc, passée un petit peu inaperçue, hein, compte tenu évidemment de la déferlante venue de Marne la Coquette, c'est Trump, qui décidait de faire de Jérusalem annexée la capitale d'Israël en y installant un terme, son ambassade. Vague de condamnation en Europe comme dans les pays arabes, justement, le Hamas qui appelle à une intifada, et on a vu aujourd'hui de gros incidents à Ramallah, à Bethléem. La région peut-elle s'embraser, à votre avis, Marc Goutalier, ou pas?
Elle peut toujours s'embraser, puisqu'il y a un grand nombre de crises, un nombre croissant de crises de plus en plus chaudes.
Mais celle-là.
Ainsi. Et celle-ci, bien sûr. Alors, après, l'administration Trump mise sur deux choses. La première, c'est une certaine lassitude de la part des Palestiniens, lassitude vis-à-vis de leurs dirigeants, lassitude vis-à-vis du manque de soutien de la communauté internationale à leur égard. On a cru à plusieurs reprises l'éventualité d'une troisième intifada. Il y a eu l'intifada des couteaux il y a 2 ans. Est-ce que vraiment ça peut exploser? Bien sûr, on en saura plus demain, puisque ce sera un jour de prière.
Bien sûr.
En tout cas,
le vendredi.
Trump a d'une certaine manière proroge la politique, c'est paradoxal, la politique d'Obama, qui était un certain désengagement des États-Unis du Moyen-Orient, et en brisant ce qu'il a appelé d'une certaine manière l'hypocrisie de ses prédécesseurs, dit bon, au fond, les États-Unis dans la région, leur intérêt c'est notamment protéger Israël, mais c'est pas vraiment s'engager efficacement, volontairement, dans la résolution des conflits de la région. Et puis il y a ce flirt avec l'Arabie Saoudite, et peut-être cet axe naissant entre Riyad, Mohamed Ben Salman, le prince héritier, et Benjamin Netanyahou, évidemment en Israël, et puis Donald Trump. Contre l'Iran, là c'est peut-être le ce qui est le plus facteur de risque pour l'avenir.
Vague de condamnation, de réprobation. Tiens, Emmanuel Macron, c'était donc ce matin à Doha au Qatar.
Le statut de Jérusalem, c'est une question de sécurité internationale qui concerne toute la communauté internationale, et la solution, elle doit être trouvée par une négociation entre Israéliens et Palestiniens. Et c'est dans ce cadre que Jérusalem pourra avoir un statut sous l'égide des Nations Unies. Et la France reste, quant à elle, attachée à sa volonté d'avoir deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et ayant des frontières internationalement reconnues, et chacun Jérusalem comme capitale.
Marc Goutalier, quel rôle pourrait jouer la France ?
Alors au Proche-Orient, la France a toujours eu un rôle, mais qui a été minoré, parce que simplement l'histoire au XXe siècle a fait que la France a perdu une influence dans la région. Néanmoins, aujourd'hui, avec le discrédit qui touche maintenant la diplomatie américaine sous Donald Trump, avec l'affaiblissement de la diplomatie britannique qui cherche un échappatoire au Brexit, avec les difficultés aussi connues par Angela Merkel en Allemagne, eh bien la France d'Emmanuel Macron a évidemment une carte à jouer et elle a déjà essayé de jouer cette carte il y a un mois
dans la crise libanaise,
bien sûr, de la démission du feuilleton tragicomique de la démission du premier ministre libanais.
Tout juste un mot, vous me faites signe, Marie-Ange Debon, la directrice générale adjointe de Suez.
Non, vous parliez des tensions politiques, c'est vrai que pour les entreprises, il faut y répondre et se réorganiser. Mais surtout, je voulais mentionner un très beau projet qui, depuis 2 ans, avait énormément progressé d'un point de vue politique, qui est le projet qu'on appelle Red Sea, Dead Sea, mer rouge, mer morte, et qui est un projet qui, en fait, est un échange d'eau entre Israël, la Palestine et la Jordanie, et dont on peut se demander, dans le contexte politique, comment il va évoluer, mais qui est emblématique des relations entre les trois pays, si un jour il aboutit.
Ouais, tout juste. Juste encore un mot, Marc Goutalier, parce que là on revient dans le Golfe. Hein. C'est quoi la position de la France? On se souvient du temps de Nicolas Sarkozy, c'était très Qatar. Il y avait notamment cet accord fiscal très avantageux donc pour le Qatar. Je ne sais pas s'il va être mis en cause ou pas par Macron. Il l'avait dit hein, pendant la campagne.
En suspension.
Justement.
En plus de gants.
Hollande, c'était plutôt l'Arabie Saoudite. Et puis là, Macron, donc le président actuel, le président de la République. On l'a vu donc à Abu Dhabi il y a un mois, l'Arabie Saoudite dans le contexte que vous avez rappelé, ce matin au Qatar. C'est quoi la position de la France sous Emmanuel Macron?
C'est essayer d'avoir une position médiane entre des pays où...
Plus d'exclusivité donc?
Non, plus d'exclusivité, ouais. Parce qu'on a des intérêts prononcés dans chacun de ces pays. Maintenant, il s'agit d'avoir recours à des acrobaties diplomatiques pas toujours faciles à gérer, parce que par exemple, quand Emmanuel Macron se trouvait au Burkina Faso, il a fait un discours notamment sur la lutte contre le terrorisme, et il a fustigé un petit peu le Qatar. Bon, tout de suite, au Qatar, ça a fait tiquer. Mais ça permet évidemment de donner des gages aux Émiriens, aux Saoudiens, bon...
Emmanuel Macron, ce matin, a salué la pleine application de Doha contre le terrorisme. Les doutes sont levés vis-à-vis du Qatar, ce qu'on a souvent dit à une époque, avant cette histoire d'embargo, que le Qatar, comme l'Arabie Saoudite en son temps peut-être, avait pu armer des groupes extrémistes, djihadistes. Aujourd'hui, est-ce que les doutes sont totalement levé autour du Qatar?
Je voudrais juste dire que durant l'été, donc au plus fort de la crise avec le blocus, le Qatar a signé un accord de coopération antiterroriste renforcé avec les États-Unis. Oui. Les États-Unis ont salué la bonne coopération de Doha avec leurs services. Mais évidemment, il faut rappeler qu'en 2014, le Trésor américain fustigeait le Qatar et très certainement a raison. Maintenant, les renseignements occidentaux savent très bien que les Qataris, le président Emmanuel Macron d'ailleurs l'a évoqué il y a quelques temps, ont pu fricoter avec tel ou tel groupe qu'on pourrait qualifier de terroriste, etc. Mais en même temps, ils nous apportent de précieuses informations. Bon, l'un dans l'autre, on peut quand même s'entendre. D'autant plus qu'évidemment, ce sont des clients de notre industrie.
Nécessairement. Tiens, alors justement, Benjamin Lalanne, donc très implanté dans le Golfe, directeur général du cabinet de recrutement Naos International. Quand on fait du business avec le Golfe, est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est pérenne dans ce contexte un petit peu troublé?
C'est une bonne question. Pour l'instant, je pense que ce qui est évident, c'est qu'il ne faut pas être naïf sur le fait qu'effectivement, la région, vous le disiez tout à l'heure, a un caractère assez instable par moment. Donc on ne peut pas non plus éluder ce fait. Après, effectivement, c'est une région qui a des besoins, qui globalement accède quand même à du financement, même si la rente pétrolière a quand même largement baissé depuis 2 ans. Donc il y a des besoins, qu'il y a du financement. Aujourd'hui, les vrais enjeux pour la région, en tout cas de notre point de vue, et lorsqu'on en parle avec nos clients, que ce soit des entreprises françaises ou pas, les vrais enjeux, c'est l'accès aux compétences et encore une fois la stabilité de l'environnement juridique, pour être certain que quand j'ouvre une filiale dans un pays, que je gagne un contrat, ce contrat ne soit pas remis en cause dans 2 ans. C'est un peu ça la crainte.
Bien sûr. Pascal Devaux, économiste chez BNP Paribas. Justement, à propos des liquidités dont dispose le Qatar, vous nous avez expliqué tout à l'heure que l'émir a dû puiser un petit peu quand même sur les réserves hein, pour faire face à cet embargo décrété par l'Arabie Saoudite, décrété par les Émirats Arabes Unis. Est-ce que pendant ce temps, eh bien, ça les empêche de continuer d'investir à l'extérieur? On sait que le Qatar a des billes assez nombreuses hein, dans le CAC 40, Vinci, Total, Accor Hotel, Veolia Environnement, LVMH, Vivendi, le Printemps, dans le foot évidemment, le PSG, bien entendu, dans l'hôtellerie évidemment, très présente à Paris. Est-ce qu'ils ont mis pour l'instant entre parenthèses leurs investissements?
Alors, je sais pas, parce que c'est quelque chose d'assez opaque, le fonctionnement du fonds souverain qatari. Mais ce qui est sûr, c'est que si on regarde le besoin de financement bancaire du pays en lui-même, qui pourra difficilement être assuré par l'extérieur maintenant, donc qui va dépendre du fonds souverain, si on regarde les déficits budgétaires qui vont continuer à être enregistrés, même s'ils sont pas importants, je crois qu'une partie de ce fonds souverain va devoir continuer à être cédée, à être vendue, pour pouvoir continuer à assurer l'activité et les investissements, parce que il y a un point qu'on n'a peut-être pas souligné, mais il y a beaucoup d'investissements liés à la Coupe du Monde. Le budget Coupe du Monde, c'est à peu près 60 milliards de dollars ou un peu plus. Il y a un deuxième...
Ce qui est considérable par rapport aux autres Coupes du Monde ou par rapport même aux Jeux Olympiques, les plus chers comme ceux de Sochi en Russie ou Pékin, bien sûr. Ouais.
Alors, il y a un deuxième élément à prendre en compte qui est très important, c'est qu'il y a eu un moratoire sur le développement gazier au Qatar depuis 2005. Ce moratoire a été levé. Donc, à partir de 2022-2023, le Qatar va réinvestir dans la production de gaz, rajouter... 30-40% de capacité de production, parce que le marché du LNG est extrêmement extrêmement dynamique et va continuer à l'être à long terme. Ça va demander des investissements énormes, enfin vraiment gigantesques. Donc il va continuer à avoir un besoin de financement du Qatar qui va, ce besoin va être important. Parallèlement, on ne sait pas jusque quand va durer cet embargo. Il peut aussi bien durer jusque 2019 que 2023. Donc la capacité de ce fonds souverain à continuer à investir à l'extérieur peut être mise en question, et en tout cas c'est beaucoup d'incertitudes.
Hugo Azrad, associé chez AT Carnet.
Une petite parenthèse en fait sur l'aérien dans la région. Il est important de noter que l'aérien a une part du PIB dans cette région qui est largement supérieure à celle qu'on va retrouver partout ailleurs dans le monde.
Et donnez-nous un ratio.
Je dirais plus de 10%. Qu'on est plutôt sur des 3-4% dans les pays occidentaux que l'on connaît. Et ce qui est intéressant dans le cadre de ces monarchies finalement qui reposent beaucoup sur le pétrole, c'est que c'est un secteur contre-cyclique pour elles, parce que l'aérienne ne se porte jamais si bien que quand le pétrole est bas. Donc, d'une certaine façon, s'ils arrivent à attirer suffisamment de trafic via leur hub, ils arrivent à récupérer une petite partie de ce qu'ils perdent dans la baisse du pétrole.
C'est intéressant quand même, l'influence, le pouvoir qu'ont ces pays du Golfe. Benjamin Lalanne, et c'est l'hebdomadaire Challenge qui a consacré un grand dossier cette semaine. On explique que les compagnies de la région ont une sorte de droit de vie et de mort sur certains programmes. L'avenir de la 380 dépend clairement de la future commande ou non d'Emirates, qui représente déjà 45% des commandes totales de l'appareil. Chez Boeing, les trois grandes compagnies du Golfe, explique Challenge, Emirates, Etihad, Qatar représentent les trois quarts des ventes du long courrier, le 777. C'est énorme ce pouvoir.
C'est énorme, et je pense que ce pouvoir est aujourd'hui, dans certains cas, une épée de Damoclès. Je pense que la vision qu'il faut avoir de notre point de vue à nous, Européens, sur le Golfe aujourd'hui, c'est plus la vision qu'on devait avoir il y a 20 ans. Il y a 20 ans, ces pays-là et leurs dirigeants voulaient surtout exister aux yeux du monde. C'est le début de toutes les démarches de soft power. Donc la diplomatie, évidemment, mais aussi, ce qu'on a dit tout à l'heure, le début des réflexions et des investissements sur les parties culturelles, sportives, qu'on voit arriver aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, la situation est différente. Leur problématique, c'est plus tellement d'exister, puisque tout le monde sait qu'ils sont là, y compris, parce que quand on parle du Qatar, concrètement, c'est 250 000 Qataris. Donc c'est une population locale extrêmement réduite en nombre.
Voilà, ils sont minoritaires dans leur pays.
Et vu l'ampleur des projets dont on parle, ne serait-ce que les projets de transport, c'est l'équivalent de projets pas comme le Grand Paris, mais enfin quand même pas très loin. Donc
ils existent, mais est-ce qu'ils sont capables de durer? C'est ça aussi la question.
D'une part, et d'autre part, je pense qu'ils veulent absolument peser. Et c'est ça aujourd'hui leur vision. C'est plus tellement d'exister, c'est de peser. Et donc là, le soft power notamment les aide à cela, et leurs investissements passés les aident aujourd'hui à cela. Clairement aujourd'hui, tout le monde sait que le Qatar existe. Je pense que dans une situation il y a 20 ans, peut-être que le Qatar aurait été éventuellement envahi par certains de ses voisins. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une réalité qui est celle-là aussi.
La Coupe du Monde, Pascal Devaux, vous le disiez, 60 milliards d'investissements, ils ont été trop gourmands ou pas? Ça va les plomber?
Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste du football, mais c'est vrai que c'est un investissement qui est gigantesque, pour en plus un retour sur investissement qui est quand même assez... On peut, en tout cas, il y a un gros point d'interrogation sur ce retour sur investissement, parce qu'ils veulent développer tout ce qui est service, enfin, la Coupe du Monde, donc le tourisme, les musées, autre chose. Et alors, par rapport à ce qu'on dit maintenant, il y a quelque chose qu'il faut voir aussi, c'est que ils font tous la même chose en même temps. Ils ont tous développé un hub aérien. Ouais. Ils ont tous développé un centre logistique portuaire. Ils font tous des musées. Il y a une époque où ils voulaient tous une bourse locale, donc il y aura forcément des gagnants et des perdants.
Et tout juste, région tourmentée, en effet, on a parlé de l'Arabie Saoudite, aussi en plein chamboulement, donc révolution de palais avec Mohamed Ben Salman qui secoue hein, les caciques du royaume, qui assigne à résidence aussi des investisseurs, des milliardaires aussi. La guerre au Yémen qui n'en finit pas, donc on a vu cette semaine l'ancien président Salé tué par ses anciens alliés, donc les Houthis, la guerre contre le terrorisme, on parlait d'Emmanuel Macron ce matin sur la base. Est-ce que tout ça, voilà, tiens, quand on fait du business, Marie-Ange Debon, est-ce que c'est facile de travailler sur place quand on est à la tête de quasiment à la tête de Suez comme vous, directrice générale adjointe?
En fait, en tout cas, on est très très vigilant sur cet aspect-là. Pour le Qatar, on a dû se réorganiser puisqu'il y avait le blocus et que nous, on a des équipes sur place qui font tourner. Des équipes. Il a fallu réfléchir. Donc, on est extrêmement vigilant sur cette stabilité politique et stabilité économique. Aujourd'hui, on n'a pas eu de problème de financement, mais on voit une nouvelle tendance à essayer de trouver des financements différents. Et là aussi, du genre des financements de projets. Ils ne financent plus uniquement sur leur budget. Ils commencent à faire appel de manière beaucoup plus structurée à des financements internationaux. Et là, évidemment, on en revient à votre question. Oui, les grandes entreprises françaises ont quelque chose à apporter en savoir-faire.
Ouais, les Français qui ne sont pas seuls, hein, concurrencés par les Américains de Trump, hein, qui reprennent des couleurs. Les Chinois aussi, qui ont multiplié par 4 leur part de marché, par exemple, en Arabie Saoudite. La Russie qui vise l'Arabie Saoudite. Question qu'on posait, est-ce que le Golfe, c'est le nouvel Eldorado de la France? Sérieusement, Benjamin Lalanne?
Il va falloir être très très bon, parce que le monde entier s'intéresse à la région. C'est pas nouveau, donc on est en concurrence avec le monde entier.
Marie-Ange Debon, Suez?
En tout cas, c'est un complément très important à notre développement économique, oui.
On en a besoin. Pascal Deveau, BNP Paribas.
Moi, je dirais qu'il faut rester prudent, même si c'est une région qui attire, qui brille beaucoup. Il y a un environnement des affaires qui reste quand même... pas un environnement des affaires occidental qui a pu rester assez difficile, notamment dans certains pays. Il y a des décisions politiques qui peuvent être assez volatiles et qui peuvent remettre en cause pas mal de choses au niveau économique. Et puis, il y a un risque politique.
Marc Outalier, justement.
Eldorado pour la France, je crois qu'il y a simplement l'interrogation d'Eldorado à moyen terme pour tout le monde. Voilà, ça dépend aussi de certaines décisions politiques intérieures. Qui, des fois, peuvent être mal avisés.
Prises au Qatar, en Arabie Saoudite ou ailleurs.
Exactement. Voilà.
Allez, Hugo Azrad.
C'est un marché incontournable pour l'industrie, mais c'est aussi un concurrent pour le secteur des services de l'aérien en particulier.
Merci à tous. Merci Benjamin Lalanne, donc directeur général du cabinet de recrutement Naos International, donc implanté dans toute la région en Arabie Saoudite, au Qatar, dans les Émirats notamment. Marie-Ange Debon, l'une des lauréates de la journée, donc avec l'un des contrats donc signé par le président de la République, Emmanuel Macron, au Qatar. C'est la vice-présidente directrice générale adjointe de Suez, en charge de la division internationale. Pascal Deveau, économiste chez BNP Paribas, spécialiste de la région, le Proche, le Moyen-Orient. Marc Goutali, on le rappelle, auteur de « Quand le printemps brouille les cartes, une histoire stratégique des frontières arabes ». Il est consultant à l'Observatoire des pays arabes. Et puis Hugo Azrad, vice-président du cabinet de conseil. AT Carnet, c'est fini pour les décodeurs de l'écho. On revient très très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.